Salut à toi Fabrice, si je me trompe pas.
Oui, bonjour, c'est Fabrice.
Alors justement, en préparant un petit peu cette émission sur justement le surendettement, je savais pas trop comment commencer à en parler, mais je me suis dit que je pourrais, je me suis souvenu en fait de mes cours de sciences économiques et sociales au lycée, dans lesquels justement on nous présentait les banques comme un agent économique vital pour que le système fonctionne de manière vertueuse. Donc les banques et le crédit, c'est ce qui permettait aux entreprises d'investir et aux ménages de consommer et donc de faire exister l'activité économique. Et donc une fois que je suis sortie un petit peu du lycée et que j'ai commencé à travailler et à payer mon loyer, en fait la banque c'était un petit peu autre chose pour moi. Et c'était notamment l'entreprise qui me prélevait des agios quand j'avais déjà la tête sous l'eau. L'entreprise dont je savais que elle avait le droit de m'accorder ou pas un crédit si je voulais acheter une maison ou une voiture en fonction de ma situation financière, ou surtout celle qui allait pouvoir exercer sur moi un contrôle très fort si jamais je m'endettais et que je lui étais redevable sur 10, 15, 20, 30 ans, quoi. Et du coup, bon, je ne cache pas que j'ai une assez mauvaise image des banques. Et aujourd'hui, on va parler donc de surendettement et justement du rapport aux banques, mais aussi à tous les organismes de crédit et peut-être à la consommation en général. Et on va pas seulement parler des banques, puisqu'on va surtout parler de ce que ça veut dire que d'être en situation de surendettement, puisque toi, tu fais partie d'une association toulousaine, Crésus, qui est une association de lutte contre le surendettement. Et
Oui, tout à fait.
peut-être avant de présenter cette association, est-ce que on pourrait peut-être définir un peu les termes et dire ça veut dire quoi être en surendettement et ça veut dire quoi être interdit bancaire? Et juste avant que tu répondes, puisqu'il n'y a pas de. Puisqu'en fait. Avant que tu répondes, je voulais proposer à des gens qui nous écoutent, si jamais ils ont envie de témoigner ou de parler de leur situation, vous pouvez nous appeler au. Je ne l'ai pas sous les yeux. Au 05 61 53 36 95. Donc 05 61 53 36 95. De préférence entre les pauses musicales, si jamais vous avez envie d'intervenir, voire de partager votre expérience personnelle. Et voilà. Donc, du coup, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de surendettement?
Alors, ouais, donc pour rebondir sur ce que tu disais, alors c'est assez un vaste sujet, on pourra reparler tout à l'heure. Les banques, c'est un acteur aujourd'hui économique qui existe depuis toujours, hein, depuis très très longtemps. C'est un acteur qui est à la fois indispensable, parce que pour faire simple, on ne pourrait pas acheter aujourd'hui de logement, on ne pourrait pas devenir propriétaire sans faire de crédit. Donc il y a un aspect quand même. Social, hein, même si c'est parfois compliqué de lier l'adjectif social avec les banques, mais il y a un acteur social dans le rôle de la banque. Ce qui est parfois plus critiquable, c'est pas le métier de banquier ou le principe même de la banque, c'est les excès qu'il peut y avoir derrière et qui existent. Voilà. Mais en soi, le rôle de la banque est important dans une société. De façon à faciliter certains achats et aussi toute l'économie du monde d'une façon générale. Le surendettement, donc pour revenir à ta question, le surendettement, la définition est assez simple, c'est quand on ne peut plus rembourser ses dettes. On a contracté des dettes et on n'est plus en mesure, de par ses revenus, de faire face aux mensualités. Donc c'est une définition assez large, assez vague, qui peut regrouper pas mal de choses, puisque finalement toutes les personnes qui ont des revenus faibles ou nuls sont surendettées à partir du moment où elles ont une dette, parce qu'elles ne peuvent plus rien rembourser. Voilà. Donc il n'y a pas de statistiques officielles dessus, parce que la définition est vague, et puis aussi parce qu'il est très difficile d'avoir accès aux personnes qui sont surendettées, il y a un certain nombre d'entre elles qui font partie de registres, de fichiers, et donc on peut repérer, mais il y a beaucoup de personnes surendettées qui sont hors des radars, qui sont chez elles à lutter comme elles le peuvent pour sortir la tête de l'eau par rapport à leurs dettes, et elles, on les voit pas forcément. Donc, pour évoquer quelques chiffres, on pense qu'environ 10% des foyers français sont dans une situation de malendettement ou de surendettement, ce qui est assez colossal, hein. Ça représente beaucoup, beaucoup de monde, peut-être 2 millions de foyers, donc 6 ou 8 millions de personnes, quoi.
Et alors bon, déjà je voulais rebondir sur ce que tu disais sur les banques. C'est vrai que c'est un sujet politique. Donc en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où on se dit qu'on s'oppose au système capitaliste et à l'accumulation et à la société de consommation dans laquelle on est, c'est vrai que le rôle même des banques est à remettre en question, puisqu'en fait les banques n'ont leur rôle nécessaire que dans le cadre justement de cette organisation spécifique qu'est le capitalisme, basée sur l'accumulation et aussi sur les inégalités. Mais bon, après, c'est tout un débat.
Oui, c'est comme tu dis, c'est un débat philosophique.
Et donc, quand on parle de surendettement, est-ce que les gens qui sont... Et du coup, interdit bancaire, parce que tu disais, il y a des gens qui sont fichés. Ça veut dire quoi être interdit bancaire? Ça veut dire que tu n'as plus le droit d'avoir accès à des crédits de... En fait, c'est... Ouais, c'est
alors,
des fichiers à la Banque de
deux
France.
Fichiers, voilà, il existe deux fichiers à la Banque de France principaux. Le fichier interdit bancaire et le fichier qu'on appelle FICP, c'est-à-dire le fichier des incidents crédits particuliers. Donc, c'est deux fichiers complètement distincts. Le premier, les interdits bancaires, c'est essentiellement les chèques impayés, donc les chèques sans provision. Donc... c'est un fichier qui empêche tous les gens qui en font partie d'avoir accès à un chéquier, puisqu'on considère que quand elles ont fait un chèque impayé, elles ne doivent plus être en mesure d'en faire. Donc ces personnes-là doivent rendre leur chéquier, etc. Et il y a beaucoup, beaucoup de restrictions pour les gens qui font partie de ce fichier. Le FICP, c'est un petit peu plus léger. C'est les gens qui ont eu des incidents de remboursement de crédit. Donc concrètement, si je prends un crédit, que ce soit immobilier ou un crédit consommation, au bout de 3 mensualités, la banque peut... donc 3 mensualités impayées. Hein, la banque peut et est même tenue de déclarer l'incident à la Banque de France. Qui va ficher la personne. Voilà. Les conséquences sont plus légères. En fait, concrètement, une fois qu'on est fiché au FICP, on ne peut plus avoir accès à des crédits, puisque les banques, avant de donner un accord pour un crédit, vont consulter ce fichier, vont consulter les deux fichiers. Hein, donc pour les interdits bancaires, il n'y en aura pas, et pour les FICP non plus. Par contre, le FICP n'empêche pas l'utilisation d'un chéquier, d'un compte en banque normal, d'une carte de paiement, etc. Voilà.
D'accord. Du coup, là, de ce que je comprends, c'est que les gens qui se retrouvent dans cette situation d'interdit bancaire, ou en tout cas avec des contraintes comme ça fortes, c'est soit qu'ils ont fait des chèques en bois, soit qu'ils ont plus de 3 mensualités non payées de leur crédit, en fait.
Voilà, les chèques en bois, c'est pour le fichier des interdits bancaires, et les mensualités de retard, c'est le FICP.
Alors, justement, c'est quoi un petit peu les... Parce que, est-ce que tu pourrais peut-être présenter un petit peu cette association pour qu'on comprenne bien que, du coup, dans votre asso, vous accueillez des gens qui sont dans cette situation-là, en fait, qui sont méga en galère au niveau financier, sur des histoires de remboursement, qui viennent vous voir, j'imagine, parce qu'ils sont en détresse ou qu'ils ont besoin d'aide, en fait, besoin de soutien. Et peut-être un peu, tu pourrais nous raconter un petit peu quels sont les, on va dire, les parcours, les chemins qui mènent au surendettement, en fait.
Mais on va peut-être commencer par ça, parce que c'est vrai que c'est un peu ce qui permet de comprendre après les gens qui viennent nous voir et puis la façon dont on les reçoit. Aujourd'hui, ce qui mène au surendettement, c'est un phénomène relativement nouveau, hein, dans l'histoire, Les dettes auparavant étaient. Enfin, on ne vivait pas avec des dettes, on accumulait, on économisait, on accumulait un peu d'argent et puis on achetait. Donc jusqu'à récemment, les seuls crédits qu'on prenait, c'était pour acheter un logement ou faire construire. Et c'est vrai que la société tend de plus en plus vers une société de consommation et même d'hyperconsommation qui fait que il faut acheter pour faire croître l'économie et pour faire croître les entreprises. Et comme les gens n'ont pas d'argent ou plus d'argent ou plus assez d'argent, on a trouvé la solution du crédit pour leur permettre d'acheter avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Donc le crédit qui à la base était quelque chose d'utile et de nécessaire s'est transformé en quelque chose de toxique puisque on l'a proposé à des personnes qui n'étaient pas en mesure de rembourser sur le long terme. Donc, oui, la société d'hyperconsommation utilise le crédit pour permettre à des gens de consommer et d'acheter. Et c'est là où il y a un côté vraiment toxique à certains crédits, parce que on ne devrait pas être en mesure d'acheter quelque chose si on n'a pas le moyen de rembourser rapidement. Donc cette société de consommation, c'est un des facteurs principaux, si ce n'est le facteur principal du surendettement, hein, partout dans le monde. Il y a un autre facteur qui est important, c'est l'isolement de plus en plus important des personnes. On est dans un monde où on...
L'individualisme, tu veux dire ? Le fait que les structures sociales se délitent et qu'on n'ait plus de solidarité familiale.
Alors il y a ça, tout à fait, l'éclatement des cellules familiales qui est lié à des facteurs géographiques. Donc les enfants partent plus loin de leur famille, donc évidemment la solidarité familiale joue moins pour des questions géographiques, mais également pour des questions de divorce. Il y a beaucoup de divorces, des parents, des familles recomposées. Donc dans ce cadre-là, c'est plus compliqué de faire marcher la solidarité familiale. On sait plus, y a plus autant de structures familiales et puis de liens entre les parents et les enfants, entre les frères et les sœurs. Voilà, il y a un éclatement globalement au niveau de la cellule familiale qui fait que le coussin que pouvait constituer la famille n'est plus aussi épais qu'à l'époque. Donc ça joue pour beaucoup de gens. Il y a des facteurs économiques également. Depuis 30 ou 40 ans, on est en crise perpétuelle, donc les salaires sont assez bas, le chômage est élevé, l'emploi se précarise de plus en plus, donc voilà, c'est des difficultés qui mènent en tout cas vers de la précarisation. Voilà, donc il y a un certain nombre de facteurs qui font que le terreau est ouvert pour le surendettement. Il y a un dernier facteur dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est le manque d'éducation à l'argent. Auparavant, les gens, en particulier dans les campagnes, avaient une conception assez simple de l'argent et qui fonctionnait très bien, c'est-à-dire j'ai de l'argent, j'achète. Si j'ai pas d'argent, j'achète pas. On économisait et puis on dépensait.
Puis le surendettement, pour le coup, chez les agriculteurs, c'est un gros dossier.
Alors, il y a de l'endettement chez les agriculteurs parce que c'est des structures qui ont besoin d'investir beaucoup et puis de plus en plus parce qu'il faut maintenant avoir des grosses structures pour pouvoir survivre. Mais les agriculteurs savent mieux gérer l'argent culturellement que beaucoup de gens en ville. Pourtant, statistiquement, les agriculteurs ont des niveaux d'éducation plus faibles que beaucoup de gens en ville, mais ils ont un meilleur niveau d'éducation budgétaire que d'autres personnes. Mais voilà, pour eux, le surendettement ne vient pas du manque d'éducation, mais va venir d'autres facteurs, du fait qu'ils sont obligés de s'endetter massivement pour avoir des structures importantes.
Je propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on se retrouve juste après pour justement poursuivre cette émission.
J'ai rencontré des gens honnêtes, des malhonnêtes. Certains viennent causer avec toi, parler, te demander si ça va. Ils viennent montrer leurs dents, jouer avec ton sentiment. Mais c'est la fausse bonne humeur, ils sont mauvais dans leur cœur.
Rends la monnaie,
ils disent soi-disant,
rends les billets.
Je t'aime, je t'aime.
Ouais.
Midi, passé de 26 minutes sur Canal Sud 92.2 en compagnie de l'association Crésus de lutte contre le surendettement à Toulouse. Je rappelle que vous pouvez nous appeler pour parler de vos situations si vous êtes vous-même surendetté, interdit bancaire, que vous avez envie de partager ça au 05 61 53 36 95. Voilà, maintenant là tu as commencé un petit peu à parler des causes du surendettement, donc l'hyperconsommation, la persévérance de cette culture de la surconsommation dans un contexte de précarité, de précarisation voilà, de la société, d'isolement, du fait qu'aussi, du rapport de la culture à l'argent, à la dépense et tout ça, qui a été complètement un petit peu explosé, quoi. Et du coup, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir... un petit peu le travail que vous faites dans votre association, puisque j'imagine, comme ça, sans vraiment trop connaître, que vous devez accueillir des gens complètement angoissés, en fait.
Ouais, c'est sûr que le surendettement amène à des situations psychologiques très, très compliquées. Alors les gens, en fonction de leur personnalité et de leurs antécédents et aussi de leurs problèmes, le gèrent de façon très différentes. Donc il y a des gens qui l'acceptent bien, il y a des gens qui ont parfois des dettes moins importantes et qui l'acceptent très très mal. Et donc il faut savoir que quand on reçoit des gens, on peut recevoir des gens en situation délicate, en situation de dépression. Le nombre de suicides liés au surendettement est important. Alors c'est toujours difficile à quantifier, et puis les suicides sont souvent liés à des eaux, à différentes causes corrélées ou non, mais en tout cas le surendettement est assez régulièrement une des causes pour des suicides.
Il y a aussi un autre truc, c'est que ça peut générer de la honte sociale, en fait, ce qui alimente en fait en quelque sorte une sorte de spirale dans laquelle ça met du temps avant de parler de ces questions-là.
Bien sûr.
Et que ça s'isole et que du coup ça reproduit une logique un peu vicieuse, quoi.
Bien sûr, il y a une vraie honte, un vrai tabou sur tout ce qui concerne l'argent, en particulier en France et en particulier sur la dette. Hein. On est dans une société où dans une culture où être endetté c'est mal. Et d'autant plus que le surendettement concerne essentiellement les classes moyennes, puisque par définition pour prendre un crédit il faut avoir un certain nombre de revenus. même s'ils ne sont pas importants. Donc les personnes pauvres sont rarement surendettées, ou alors pour des factures ou des loyers impayés, mais c'est un autre problème. Le surendettement bancaire concerne surtout les classes moyennes, et ce sont des gens qui ont une voiture, un métier, qui sont insérés socialement, qui ont une famille. Voilà, autant quand on est pauvre, on ne peut pas le cacher, donc souvent les gens ont moins honte de se montrer, alors que des gens qui sont surendettés, ils ont leur vie sociale et effectivement il y a un sentiment de honte très fort qui les pousse à tout faire pour s'en sortir sans aller voir qui que ce soit, parce que déjà ils ne savent pas qui aller voir. Il y a très peu de structures qui les reçoivent. C'est des gens qui ne sont pas habitués à aller voir des assistantes sociales ou des CCAS. Donc, il y a peu d'endroits où ils peuvent aller voir. Souvent, ils se débrouillent par eux-mêmes. Ils sont parfois harcelés par des créanciers, par des entreprises de recouvrement ou des huissiers. Et ça crée une pression psychologique très, très importante. Donc, ces gens-là viennent voir Crésus parce qu'ils nous ont trouvés sur Internet, parfois par le bouche à oreille. Parce qu'ils en ont parlé à la Banque de France, ils ont déjà fait les démarches ou d'autres associations. Et nous, on a un double rôle. On a un rôle d'écoute qui est essentiel, écouter leur histoire. Et ça, c'est un rôle qui permet de faire descendre la pression. C'est, voilà, quand on ouvre le bouchon de la cocotte minute, la pression descend et du coup, on se sent mieux. C'est vraiment le fait de parler qui permet aux personnes de se sentir mieux. Et le deuxième rôle, c'est un rôle de conseil pour orienter les gens vers une solution qui soit acceptable dans leur cas. Et heureusement, quand il s'agit de problèmes d'argent, il existe toujours des solutions. Et ça, il faut vraiment le comprendre et que les gens se le mettent en tête. Pour un problème d'argent, il y a toujours des solutions. Quand il s'agit de problèmes de santé, malheureusement, on ne peut pas toujours trouver de solution. Mais pour l'argent, il y a toujours. Voilà, il ne faut pas que des gens aillent faire l'irréparable à cause de problèmes d'argent. Ça ne devrait pas exister.
Bah maintenant, ça répond un peu à ma question, parce que quand j'ai demandé autour de moi s'il y avait des gens qui étaient interdits bancaires, en fait, tout le monde m'a dit non, parce qu'en fait, je pense que je traîne qu'avec des gens qui sont trop pauvres pour accéder au crédit, en fait. Voilà, déjà ça. Mais après, ouais. En fait, faut pas non plus sous-estimer. Peut-être qu'en fait, les pauvres, il y a d'autres formes d'endettement qui, du coup, sont dans des solidarités en dehors des banques et des organismes de crédit. Et encore, je me pose la question, parce que justement, on parlait un petit peu des banques, mais aujourd'hui, même si tu es pauvre, tu peux accéder à un crédit à la consommation, par exemple, non ?
Oui, oui, bien sûr. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle pauvre. Voilà. Quand on est salarié en CDI avec un SMIC, est-ce qu'on est pauvre ou est-ce qu'on ne l'est pas ? Tout dépend de si on a des enfants, où est-ce qu'on habite ? Est-ce qu'on habite en centre-ville de Paris ? Est-ce qu'on habite dans la campagne ? Donc, ça va évidemment jouer sur le loyer. Donc, la définition de la pauvreté est très, très relative. Disons que le surendettement touche toutes les classes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça touche toutes les classes sociales et tous les niveaux de revenus. Donc du SDF à la personne qui va avoir des très hauts revenus. On reçoit régulièrement des gens qui gagnent, régulièrement, c'est assez rare, mais des gens qui gagnent 8-10 000 euros. On reçoit également des gens qui sont complètement désociabilisés et qui ont contracté des crédits essentiellement des amendes ou des anciennes dettes de loyer, etc. Et au milieu, il y a quand même un gros ventre mou de personnes qui sont les classes moyennes, plutôt classes moyennes inférieures, donc des gens qui sont quand même à la limite de la pauvreté. Elles ne sont pas dans les statistiques de la pauvreté parce qu'elles ont souvent des revenus, des familles, elles sont insérées socialement, etc. Mais c'est des gens qui galèrent. Donc la plupart des gens qu'on reçoit, c'est des gens avec des revenus faibles, parfois des revenus pas réguliers. Donc beaucoup des gens qui jonglent avec de l'intérim, des contrats, différents contrats, ou des indépendants, des auto-entrepreneurs qui ont des faibles revenus et qui galèrent chaque fin de mois pour terminer les fins de mois. Donc oui, c'est des gens qui sont pas fortunés, et même s'ils sont pas statistiquement pauvres, en tout cas c'est des gens qui sont en précarité financière.
Et du coup, tu parlais, tu disais, quand on parle d'argent, il y a toujours des solutions. C'est quoi notamment les solutions qui sont les premières solutions, c'est monter un dossier de surendettement, c'est ça ?
Ouais, alors on parle souvent des choses qui ne fonctionnent pas bien, mais il se trouve qu'en France, il y a une chose qui fonctionne pas mal, c'est la procédure de surendettement. La procédure de surendettement, c'est géré par la Banque de France, donc c'est un organisme public évidemment, et toute personne qui se trouve en état de surendettement, donc qui n'est plus en mesure de rembourser ses dettes, peut faire une déclaration auprès de la Banque de France. Et la Banque de France va lancer une procédure. Il va y avoir une décision de recevabilité, en général c'est le cas, et la Banque de France va mettre en place, avec l'accord des créanciers, des mensualités pour que la personne puisse rembourser ses dettes en fonction de sa capacité de remboursement. La capacité de remboursement est elle-même calculée en fonction des ressources et des dépenses de la personne, notamment son loyer. Et donc la Banque de France va lui permettre de rembourser une somme tout à fait acceptable vis-à-vis de ses ressources. Et ça, ça fonctionne vraiment pas mal. Les créanciers peuvent évidemment contester, mais pour des bonnes raisons, seulement pour des bonnes raisons. Donc par exemple, un organisme de crédit ne pourra pas contester juste parce que la personne a pris un crédit. Il faudra vraiment qu'il arrive à prouver la mauvaise foi du débiteur, mais une vraie mauvaise foi.
Ok, et après, je pense que ça questionne quand même, parce qu'en effet, il y a des solutions, on va dire, en réponse à ces situations qui sont créées par ça, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de remise en cause des racines et des causes même de ces organismes de crédit et de leur action. Notamment ce qu'on a beaucoup critiqué, et peut-être que je peux passer le prêt à diffuser, là... vas-y, je vais faire ça maintenant. Du coup, on va écouter un petit extrait sonore. C'est un extrait de la radio-télévision suisse d'une émission de 2015 qui s'appelle « Comme si c'était hier » et qui parle de la loi de 93. Mais du coup, c'est une loi suisse, la loi sur le petit crédit, limiter les ravages du surendettement. Et du coup, c'est un petit extrait qui revient un peu sur l'histoire du crédit.
Le problème du surendettement, il naît dans les 30 Glorieuses avec la société de consommation. Tout est mis en place dans les pays d'abondance pour que l'homme, promu au rang de consommateur, achète toujours davantage. Et ce sont les jeunes, déjà, qui sont les plus vulnérables.
C'est d'abord une excellente clientèle pour les banques parce qu'ils n'ont par définition très souvent pas beaucoup d'argent. Et donc pour accéder à des biens comme une voiture, etc., eh bien ils vont devoir s'endetter.
C'était le linge de la maison, enfin les draps, les linges, tout ce qui sert dans une maison.
Ça représentait quelle dépense ?
Ça représentait 2800 francs.
5000 francs, le contrat.
Et puis quand vous aviez payé les 5000 francs, vous aviez des meubles, à vous ?
C'est-à-dire, oui, si je les avais payés, je les aurais eus. Si j'avais pu continuer de payer.
Le petit crédit. Il commence par être encouragé par les représentants.
Bonjour madame, permettez que je vous présente un produit. J'ai un nouveau produit pour les nettoyages.
Non, merci beaucoup.
Puis par la généralisation des cartes de crédit.
Diners Club et American Express dominent le marché.
Mais avant tout, par les instituts bancaires et leur matraquage publicitaire. Très vite, le petit crédit inquiète les associations de consommateurs.
Le principe d'une organisation de défense des consommateurs, c'est de ne pas les inciter à signer des contrats dont ils étaient régulièrement la partie perdante.
Il y a des lacunes très graves dans la législation actuelle, lacunes qu'on ne peut pas combler sans une base constitutionnelle assez large pour fonder des lois d'application.
Il n'y avait pas de législation, pas de réglementation, ni sur la publicité, ni sur la forme d'émission, ni sur le type de contrat, rien.
Les années passent.
Et c'est là que vous mettez le doigt dans l'engrenage du petit crédit. On a l'impression qu'on n'a pas déboursé d'argent. Les banques ont encore renforcé les campagnes publicitaires pour le petit crédit.
Et rien ne se passe.
C'est-à-dire que les lobbies des prêteurs étaient très, très actifs.
Cette forme d'endettement concerne approximativement un ménage sur trois. C'est donc un domaine qui s'est développé.
Évidemment, les freins étaient dans les coulisses, si je puis dire.
Ce n'est qu'en 1993 qu'une loi sur le petit crédit est enfin adoptée à Berne, après une longue bataille de part et d'autre.
C'est une volonté de pouvoir témoigner face à la population, face aux banques aussi, qui ignorent souvent les problèmes que le crédit peut poser à un certain nombre de personnes. Les instituts bancaires avaient réussi à produire des ouvrages entre les différents débats dans les chambres, entre le Conseil national et le Conseil des États, de manière à amener des arguments. Donc, beaucoup de moyens mis par le lobby bancaire.
Ironie de l'histoire, aujourd'hui retiré de la politique, Yves Etiaghi s'est reconverti dans le microcrédit.
Oui, à ne pas confondre avec le petit crédit. Le petit crédit est à la consommation, le microcrédit à l'investissement. C'est le prêt qui est vers l'avenir, c'est-à-dire vers l'investissement, et non pas vers le passé, c'est-à-dire le paiement d'un véhicule qui roule déjà, d'un meuble qui s'use déjà, et ainsi de suite.
De retour dans le magazine de Canal Sud, il est 12h40. On écoutait ce passage du coup qui parlait un petit peu du développement du crédit et notamment de la publicité faite pour les organismes de microcrédit. Je me rappelle quand je regardais la télé de ces pubs là qui faisaient cette promotion. C'est toujours le cas aujourd'hui? Il y a toujours des pubs pour les crédits à la consommation?
Oui, oui, pour tout ce qui est crédit renouvelable en particulier. Alors, c'est pas pareil que le microcrédit.
C'est quoi les crédits renouvelables ?
Les crédits renouvelables, c'est des crédits, comme son nom l'indique, qui se renouvellent sans arrêt. On appelle ça aussi crédit revolving, réserve d'argent ou carte de crédit. C'est tout la même chose, c'est tout le même concept. C'est-à-dire qu'on a une carte avec une réserve d'argent dans laquelle on peut piocher et qu'on va rembourser mensuellement, mais on peut à chaque fois reprendre dans le pot au miel, dans le pot de miel, jusqu'à la réserve d'argent. Donc en fait, c'est des crédits qui n'en finissent jamais.
Donc tu as une carte et tu fais des dépenses de consommation dans le quotidien et en fait, il n'y a aucune limite à ce crédit. Tout est, en fait, ta vie, elle est à crédit, quoi. Toutes tes consommations.
Oui, c'est ça. Et malheureusement, de plus en plus de gens utilisent ce genre de carte. Alors là, on parle concrètement.
C'est pas une carte bleue, en fait.
C'est pas une carte bleue, mais c'est une carte qui permet de payer quand même. Donc c'est tout ce qui est carte Cofinoga, carte Carrefour Pass, toutes les grandes sociétés de les supermarchés et puis les grandes sociétés type Ikea, Conforama, etc. ont leurs cartes soit dédiées, soit avec lesquelles ils ont un partenariat, de façon à pouvoir acheter à crédit. Donc le principe, c'est qu'on paye et on est débité soit plus tard, soit par mensualité. Donc il y a quand même une limite, puisqu'on a une limite d'argent qu'on ne peut pas dépasser. Donc en général, ça va être 3 000, 5 000 euros, 8 000 euros. Mais le côté pervers, c'est que quand on rembourse, souvent cette limite, elle augmente. Donc quand les organismes de crédit se rendent compte que la personne rembourse, elles vont augmenter le plafond de leur réserve d'argent pour que les gens puissent prendre un peu plus et s'endetter plus. Comme en plus ce sont des crédits qui ont des taux d'intérêt très élevés, entre 15 et 20%, pour parler clairement, c'est vrai que c'est très très lucratif pour les banques. Et les gens, on revient au problème de d'éducation au budget, les gens ne se rendent pas compte qu'un crédit à 20%, c'est pas du tout comme un crédit à 4%, puisque les mensualités intègrent des intérêts qui sont très élevés, et donc des gens se retrouvent à payer des intérêts pendant des années sans jamais rembourser le crédit, quoi. Donc c'est des crédits qui n'en finissent pas parce qu'on reprend toujours un petit peu d'argent et puis surtout on rembourse des intérêts qui représentent des sommes importantes, quoi.
Et ça, du coup, parmi les gens que vous rencontrez, il y a plein de gens qui arrivent et qui ont, on va dire, mis le doigt dans l'engrenage par ces cartes de Carrefour et compagnie, quoi.
Ouais, ça arrive régulièrement. Alors, ces crédits-là ont été quand même encadrés par la loi sur les 10 ou 20 dernières années régulièrement, mais toujours un peu trop tard. Et puis les banques arrivent toujours à trouver des nouveaux produits pour aller plus loin ou pour contourner les lois. Donc le crédit revolving était une vraie plaie il y a encore 10 ans. Donc on voyait des gens qui étaient dans des engrenages infernaux, qui se retrouvaient parfois avec 100, 150 000 euros de dette, alors que derrière il n'y avait rien, il n'y avait n'ai pas de, ni bien immobilier, ni même une voiture ou quoi que ce soit.
Ouais, c'est des crédits, enfin en gros c'est des trucs qu'ils ont achetés et qu'ils ont payé beaucoup plus cher en fait que le prix puisqu'ils ont payé 20%
de plus.
C'est les intérêts qui
s'accumulaient, les intérêts s'accumulaient, après les gens n'arrivaient pas à rembourser les intérêts, les gens n'arrivent pas à rembourser les mensualités, donc ils reprennent d'autres crédits pour rembourser les premiers crédits, les autres crédits ont des taux également élevés, donc le capital dû augmente, on reprend encore des crédits pour rembourser ce qu'on peut, et puis ça gonfle, puis ça gonfle, puis ça gonfle, jusqu'à arriver à des sommes complètement aberrantes, donc on retrouve avec des gens qui ont, on se retrouve avec des gens qui ont parfois 100 000, 150 000 euros, qui sont constitués essentiellement d'intérêts toxiques de crédit revolving. Ouais, ça arrive. Depuis quelques années, ça a quand même été un peu encadré, même si c'est encore loin d'être idéal. Mais aujourd'hui, les banques et toutes les entreprises se dirigent vers d'autres types de crédits déguisés de type LOA. Alors les LOA, c'est les locations avec option d'achat. Ce qu'on fait
beaucoup. C'est des hypothèques.
Non, c'est un peu différent. C'est ce qui se fait beaucoup pour les voitures, par exemple. C'est-à-dire que, alors ils appellent ça location, mais c'est plus du tout une location. Hein. À l'époque, c'était une location parce que on louait une voiture tous les mois. Et puis, au bout de X années, on pouvait acheter sa voiture en payant le complément.
Qu'on n'avait
pas payé par la location. Sauf qu'aujourd'hui, ça s'est transformé en des offres de crédit déguisées. C'est-à-dire qu'on paye tous les mois, mais on ne peut pas lâcher la voiture n'importe quand. On est quand même lié pieds et poings liés et on est obligé d'acheter la voiture à la fin ou de continuer à payer la location éternellement.
Oui, là, on parle d'endettement et de crédit, mais j'ai l'impression un petit peu la base de tout ça, c'est la contrainte que ça exerce, qu'elle soit contractuelle ou qu'elle soit aussi plus fine, c'est-à-dire en créant une accoutumance, comme tu disais, d'augmenter les plafonds auxquels on a accès.
Oui.
Au final, c'est des mêmes mécanismes, mais après, j'ai l'impression qu'un peu toute la... pas ce mot la perversité, mais en gros la logique enfermante, c'est en fait c'est que les banques et ces organismes de crédit mettent en place des mécanismes psychologiques bien appuyés par cette société de consommation qui noue en fait des...
Oui, oui, tu parlais de publicité tout à l'heure. La publicité, c'est ce qui permet en fait de pousser à cet acte d'achat démesuré. Pour les voitures, par exemple, aujourd'hui, on ne voit plus le prix de la voiture. Il y a quasiment plus de publicité de voiture qui affiche le prix. Aujourd'hui, on ne voit que des loyers. Donc, l'autre jour, j'étais avec mon gamin, il voit une affiche, je sais plus si c'était une BM, il me dit « Ah, bah, ça coûte 129 €, c'est génial hein. !» Je lui dis « Mais oui, mais non !» Malheureusement, c'est 129 € pendant des dizaines d'années. Et ça, c'est hyper pervers. Ça devrait être interdit. On ne devrait pas pouvoir afficher une voiture avec un prix aussi faible. On devrait afficher le prix de la voiture, et si c'est à crédit, le prix du crédit avec les intérêts. Donc la publicité, oui, elle pousse vers ces côtés pervers. Encore une fois, ici, on est sur les abus qu'il peut y avoir dans la société de consommation pour pousser les gens à consommer. Ouais.
Bon, encore une fois, oui, on peut parler d'abus, mais on peut parler de problèmes structurels aussi. Ça dépend encore du point de vue. Mais après, là, tu parlais de ces cartes-là dont je ne connaissais pas l'existence et qui font bien flipper pour ne rien cacher. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi un autre risque.
Très développées. Elles existent depuis des années. Il y a énormément de gens qui les utilisent. Et nous, on conseille fortement aux gens de ne plus les utiliser, de ne plus avoir recours au crédit revolving, au crédit renouvelable, aux réserves d'argent et aux cartes de crédit. Voilà, n'utilisez que votre carte bleue classique parce que sinon, vous mettez le doigt dans un piège possible.
Et encore, ça pose la question par rapport à la carte bleue, parce que par exemple, là, ils sont en train de nous dessiner une société sans cash. C'est aussi un truc, alors je suis pas trop renseignée, mais on utilise de moins en moins de cash. J'ai entendu qu'en Chine, il n'y a plus de cash. Il y a pas mal de pays européens qui sont en train d'essayer d'adapter l'économie pour qu'il y ait de moins en moins de cash. Ça aussi, je trouve ça super dangereux, parce que à partir du moment où on utilise le sans-contact, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de rapport physique à l'argent, qu'il n'y aurait même plus de pièces, de billets, mais qu'en fait, tout passe par la dématérialisation. Ça encourage des gens qui
ouais, là c'est plus un problème d'éducation à l'argent, encore une fois. Il y a des gens effectivement à qui on va conseiller de payer en cash parce que ils vont voir l'argent partir.
Mais
alors que par
carte
bleue, les gens qui gèrent bien leur argent, il y en a. Pour eux, ça pose pas de problème. Mais si tu veux, le moyen de paiement, pour nous, c'est assez transparent, parce que qu'on paye en cash ou qu'on paye en carte bleue, ça devrait être la même chose. Donc pour moi, en soi, fondamentalement, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que la facilité de paiement par carte peut inciter certaines personnes à dépenser plus que si, s'ils sortent des billets, c'est plus visuel. Et ça peut jouer dans ce sens-là.
Par exemple, le fait, ça dépend si on a un plafond et tout ça, mais si on peut être dans le rouge. Mais par exemple, tu ne seras jamais dans le rouge avec des espèces, alors qu'en fait, avec ta carte bleue, tu peux vite te retrouver à te taper des agios si tu as dépensé.
Ah, tu peux retirer, si tu as un découvert autorisé, tu peux retirer jusqu'à hauteur de ce découvert autorisé.
Voilà,
donc retirer dans un, tu peux retirer avec ta carte bleue ou au guichet du liquide et être quand même à découvert. Faut quand même surveiller. Oui, si tu as un découvert autorisé, tu as le droit de prendre de l'argent jusqu'à.
C'est vrai que ça m'est arrivé dans ma jeunesse. Mais j'ai arrêté tout de suite, pas de découvert autorisé.
Il faut, le découvert autorisé, donc c'est un type de crédit.
C'est un type de crédit, en fait.
Et c'est un type de crédit qui coûte très cher et qui rapporte beaucoup aux banques. Aujourd'hui, c'est vrai que les banques gagnent beaucoup d'argent avec les gens très riches et avec les gens pauvres qui sont en galère. Très peu avec les gens normaux, parce que les crédits
aujourd'hui... Les gens normaux,
on
enlève cette phrase.
Toutes les classes moyennes, les gens qui sont ni pauvres ni riches. Pourquoi ? Parce que les crédits aujourd'hui ont des taux d'intérêt faibles. Enfin, en tout cas, les crédits immobiliers et les crédits consommation. Par contre, là où ils gagnent de l'argent, c'est sur tous les placements des gens très riches, mais aussi sur tous les frais bancaires pour les gens qui ont des difficultés, les rejets de prélèvements, les rejets de chèques, les agios, etc., etc. Et ça fait gagner beaucoup d'argent en banque, et on a beaucoup de mal à les limiter, parce qu'il y a un vrai lobby bancaire qui veut pas limiter ces frais bancaires, alors que les frais bancaires sont parfois destructeurs pour certaines personnes, et c'est même ce qui va faire plonger certaines personnes dans le surendettement.
At first we started out real cool, taking me places I ain't never been. But now you're getting comfortable, ain't doing those things you did no more. You're slowly making me pay for things your money should be handling. And now you ask to use my car, drive it all day and don't fill up the tank. And you have the audacity to even come and step to me, ask to hold some money from me until you get your check next week. You're trifling,
good for nothing type of brother. Silly me, why haven't I found another? A baller.
When times get hard, need someone to help me out,
instead of
a scrub like you who don't know what a man's about.
Can't pay my bills, can't pay my telephone bills, can't pay my automobile.
On my car, gave me back credit, buying me gifts with my own hands. Haven't paid the first bill, but you're steady heading to the mall. Going on shopping sprees, perpetrating to your friends that you be balling. And then you use my cell phone, calling whoever that you think at home. And then when the bill comes, all of a sudden you be acting dumb. Don't know when none of these calls come from. Mama's number's here more than once. You're trifling,
good for nothing type of brother.
Silly me,
why haven't I found another? a baller. When times get hard, need someone to help me out. Instead of a scrub like you who don't know what a man's about.
Pay the bills, keep paying the telephone bills.
C'était les Destiny's Child, le Canal Sud numéro 1 sur la nouveauté. Cette belle époque du R&B, je pense que j'aurais été capable à l'époque de m'endetter pour acheter le CD, mais voilà, ça s'est pas fait. On va terminer cette émission après avoir un petit peu balayé cette question voilà, du surendettement. Mais peut-être pour finir, est-ce que tu pourrais rappeler un petit peu les infos pratiques pour savoir comment vous contacter, c'est quoi un petit peu le cadre, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais un peu le cadre dans lequel vous accueillez les gens pour venir un petit peu accueillir cette parole de ces histoires. Ouais.
Alors, nous, on reçoit les gens, on est une vingtaine de bénévoles, hein, à Toulouse, 20-25 bénévoles à peu près. On reçoit les gens sur plusieurs lieux. Nos conseils sont gratuits, c'est important. Et on reçoit les gens de façon individuelle et confidentielle, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à venir nous voir si vous avez des problèmes ou même si vous avez un doute. Ça ne coûte rien. Voilà, personne n'en saura rien et c'est gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez taper Crésus Toulouse dans un moteur de recherche, ou sinon vous allez directement sur notre site internet, c'est cresus-toulouse.org. Je vais vous donner le numéro de téléphone également pour ceux qui veulent le faire par téléphone. C'est le 06 52 74 26 01. 06 52 74 26 01. Mais vous pouvez tout simplement prendre rendez-vous en ligne sur notre site internet. Comme ça, on n'a pas d'administratif à gérer. Et
voilà, les horaires d'ouverture
Alors, on reçoit uniquement sur rendez-vous. Parce qu'en fait, les rendez-vous sont assez longs. Ça dure au minimum une heure et jusqu'à une heure et demie. Donc, on ne peut pas se permettre de faire attendre les gens une heure et demie s'il y a plusieurs personnes qui viennent d'un coup. Donc, c'est uniquement sur rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous soit par téléphone, soit sur le site internet. Et après, vous choisissez votre lieu de rendez-vous et l'horaire qui vous convient le mieux. Il y en a un petit peu partout sur Toulouse, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, sur différents créneaux horaires.
Merci. Peut-être que tu as envie de rajouter quelque chose justement par rapport à ce qu'on avait dit ou pas?
Non, mais on a fait le tour. En tout cas, je vais insister sur le fait que les problèmes d'argent, il existe toujours des solutions pour les problèmes d'argent. Donc voilà, il ne faut surtout pas que ça devienne un problème qui empoisonne votre vie de couple ou votre santé. Quoi. Voilà.
Merci beaucoup à toi. Et puis nous, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve du coup dans 5 minutes avec les jeunes du collectif Autonomie qui, avec qui on va discuter voilà, jusqu'à 14h. Allez, à tout de suite.